Le gouvernement provincial de Kinshasa serait asphyxié par un surendettement auprès de banques commerciales de la place. Il n'est plus à mesure de payer les émoluments des députés provinciaux. Ces derniers ne siègent plus depuis l'ouverture de la session budgétaire de septembre. Enquête de Radio Okapi à suivre dans ce magazine. Il faut passer de la promesse à la concrétisation. Le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC a ouvert aujourd'hui des comptes au profit de 20 élèves des écoles Eureka de la Gombe et Alimba de Kitambo avec un dépôt initial de $50. Ceci est une promesse tenue le 31 octobre à l'occasion de la Journée internationale de l'épargne. Dans la Tchopo, les travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Ubundu sont finis depuis vendredi. Le grand bourbier au PK28 a été traité. Voilà pour les titres, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Ouvrons Écho d'économie par Kinshasa. Vous avez suivi sur nos antennes que l'Assemblée provinciale ne siège plus depuis la plénière d'ouverture de la session budgétaire intervenue le 30 septembre dernier. Et pour cause, les députés provinciaux impayés refusent de prester et réclament leur arriéré d'émolument de 3 mois. La situation est pareille et pour le personnel du bureau de cet organe délibérant et pour le personnel des cabinets ministériels qui accusent entre 3 et 9 mois d'arriéré. Selon une enquête de Radio Okapi, la ville de Kinshasa serait très endettée auprès de banques et autres fournisseurs, ce qui asphyxierait son fonctionnement. C'est une enquête réalisée par Innocent Olenga.
D'après nos sources, la ville de Kinshasa produit mensuellement en moyenne 5 millions de dollars américains, dont 3 millions de la DGRK, 1 million du Foner et 1 million de la rétrocession. De cet argent, la ville dépense théoriquement plus ou moins 587 000 dollars pour l'Assemblée provinciale, plus ou moins 685 000 pour les gouvernements provinciaux, plus ou moins 261 000 comme rétrocession aux communes, 1 million de dollars à l'OVD et les restes, soit 2,5 millions de dollars, constituent les fonds secrets de recherche à la disposition du gouverneur. Maintenant, la ville de Kinshasa a une dette d'au moins 50 millions de dollars américains auprès des banques et autres fournisseurs. Elle s'est ainsi endettée dans presque toutes les banques à l'exception de la Finca. Et les grandes recettes brassicoles, tabagiques et sucrières sont déjà hypothéquées pour une longue période. L'argent emprunté au nom de ces taxes aurait servi à l'achat des véhicules anti-incendie et des bus de la défunte Retranskin. La ville dispose de 173 comptes en banque reconnus, mais selon nos sources, il existe au moins 80 autres comptes non reconnus, appelés comptes spéciaux, non accessibles aux comptables. Étant donné que la ville a des dettes des banques, celles-ci récupèrent leurs crédits au versement des recettes et n'accordent plus de découverts. Ce qui fait que dans la pratique, la clé de répartition des recettes telle que démontrée soit difficilement respecté, du fait que, selon nos sources, le respect de la chaîne des dépenses pose aussi véritablement problème. Mais au ministère provincial des Finances, on déclare que la DGRK est en baisse de production et que la rétrocession par les gouvernements centraux fait aussi défaut et accuse des retards de plusieurs mois.
Nous restons à Kinshasa où le Fonds pour l'inclusion financière en RDC poursuit les actions de l'éducation financière entamées depuis le 31 octobre, journée internationale de l'épargne. Le directeur général du FPM, en collaboration avec Finca RDC, ont visité les écoles Eureka de la Gombe et Alimba de Kitambo. Le seul message aux élèves qui constitue la cible première des actions de l'éducation financière en RDC, épargner dès aujourd'hui pour se prémunir de moyens nécessaire et prévenir les aléas de la vie future. Le FPM a à l'occasion ouvert des comptes épargne à 10 élèves de Eureka dans la Gombe et 10 de Alimba à Kitambo avec un dépôt initial de $50. Jean-Claude Tetika est le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC.
J'espère que vous avez été à la journée internationale qu'on a tenue le 31 octobre avec le gouverneur de la Banque centrale. Lors de cette réunion, on avait promis d'aller au-delà des discours, c'est-à-dire de concrétiser un peu en essayant d'inciter les élèves à voir leur premier compte. Et donc là, on a fait notre ronde pour pouvoir sensibiliser, offrir ce que le FPM avait promis. Mais ce n'est qu'un symbole, hein. Ce n'est qu'un $50 qui a été donné aux élèves. Mais le grand souci ou ce qui a été derrière cet acte, c'est d'abord de montrer aux élèves qu'ils sont des épargnants de demain, ils sont les responsables de demain, ils seront des mères de demain et des papas de demain avec tout le problème problèmes que les responsables peuvent faire face par rapport à la vie. Et donc, épargner n'est pas juste un acte simple. Vous le savez comme bien moi qu'il faut de la volonté, il faut de la patience, il faut de l'éducation. Et donc, c'était même le sens de notre visite ici, c'est d'éduquer, de leur dire, écoutez, aujourd'hui c'est 50$, mais demain, vous pourrez avoir un revenu encore beaucoup plus important. Si vous voulez réaliser des projets plus importants, si vous voulez vous mettre à l'abri des aléas de la vie, il faut absolument mettre de côté ce que vous gagnez.
Les comptes sont ouverts pour les enfants avec 50$ dedans. Le FPM s'arrête là et attend jusqu'au 31 octobre de l'année prochaine où, dans l'entretemps, il va y avoir un mécanisme de suivi de ces comptes qui sont ouverts.
Exactement. Vous avez vu que nous le faisons avec un partenariat avec Finca, qui est d'ailleurs notre partenaire au niveau du FPM. Hein. C'est-à-dire que l'idée qu'on va faire, c'est que chaque mois, on va suivre un peu l'évolution de ces comptes. On pourra même avoir un mécanisme de rappel aux parents. Vous avez vu que nous leur avons mis un incitant pour leur dire que si jamais ils évoluaient bien, nous pourrons encore mettre quelque chose là-dessus pour pouvoir les inciter. Mais avant d'y arriver, il ne faut pas attendre le 31 octobre. Hein, et donc, on va pouvoir inciter parce que le problème dans tout ça, c'est vraiment de créer une dynamique qui va, après qu'eux-mêmes puissent prendre le plaisir, et ça va, je pense que ça va rester comme une habitude, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des élèves.
Les comptes sont ouverts et logés à la Finca RDC. Mais comment cette institution de microfinance attend-elle traiter et rémunérer ses comptes? Son directeur commercial, Kinga Mathias King, explique.
Je pense que le FM nous a choisi parce que nous avons déjà des produits adaptés aux jeunes qui existent depuis très longtemps et nous n'avons fait que joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire les systèmes d'ouverture des comptes, comme nous nous basons sur la proximité, nous travaillons avec un système d'ouverture des comptes à distance, c'est-à-dire par exemple pour la jeune population, les élèves, nous pouvons nous déplacer dans des écoles ouvrir des comptes et aussi nos canaux de distribution qu'on appelle des points POS, c'est-à-dire des agents bancaires que nous avons au nombre de plus de 800 pour toute la République démocratique du Congo. Nos clients ne sont pas obligés de venir dans les agences pour effectuer des dépôts ou vérifier les soldes. Ils peuvent aller au coin des avenues, dans leur quartier, dans des boutiques, pharmacies, faire des transactions avec ces agents bancaires. Donc c'est une façon de faire l'économie du temps et même du coût du transport qui peut se transformer en une épargne directement. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire pour participer aussi à l'inclusion financière des populations exclues du système bancaire classique.
Et si ce n'est pas un secret, comment FICA va rémunérer ses comptes au fil du temps?
Bon, le compte des jeunes, qu'il soit compte dépôt à terme ou le compte vu, parce qu'on a deux types de comptes jeunes, dépôt à terme et compte vu, ce sont les comptes qui ont le plus grand taux de rémunération par rapport à tous nos produits que nous avons. Le taux est le plus élevé, c'est ce que je peux dire. Et le moment venu, je crois que même quand on va procéder à l'ouverture de compte avec les parents, ils auront des dépliants qui donnent tous les détails nécessaires par rapport à ça.
Écho d'économie.
Rendons-nous à présent dans la province de la Tchopo pour parler de la fin depuis vendredi dernier des travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Ubundu au point kilométrique 28 et 39. Les travaux exécutés par l'office de route étaient consacrés au traitement du grand bourbier au PK 28 et le remplacement du pont Biaro au PK 39 effondré en juillet dernier. La société civile d'Ubundu, territoire situé à 128 km au sud de Kisangani, exprime sa satisfaction et invite l'autorité politico-administrative à procéder rapidement à la réouverture du trafic interrompu depuis juillet dernier. Explication Anselme Massoua.
C'est seulement le 16 octobre dernier que l'office de route Kisangani sur financement du gouvernement congolais a débuté les travaux du remplacement des ponts Biaro au point kilométrique 38. 15 jours ont suffi à cette entreprise étatique pour dégager l'ancien de 20 tonnes effondré et placer le nouveau de 30 tonnes. Cependant, le traitement du grand bourbier au point kilométrique 28 n'a pris que 9 jours, soit du 2 au 11 novembre. Un mur de soutènement a été érigé et déclare le chef de brigade pont de l'office de route pour corriger cette partie de la route. Pour la société civile d'Ubundu, la réouverture du trafic permettra à la jeunesse de la cité d'Ubundu, avec l'arrivée des véhicules et des marchandises, de retrouver son travail et des manutentions perdues. Aussi, poursuit-il, la cité va connaître la baisse de prix des produits de première nécessité qui vont inonder les marchés d'Ubundu. Parmi ces produits, le carburant, le haricot, le savon, le sel de cuisine, le sucre et la bière qui ont connu une hausse moyenne de 40%. Kisangani, Anselme Massoua, Éco d'économie.
Et nous terminons par le Nord Kivu. Trois organisations locales de Walikale dénoncent à l'avance un probable déguerpissement de creusers artisanaux de Bissié par la société minière Alpha Mine. Dans un communiqué de presse publié le 9 novembre dernier, le BDOA, le CIDH et le Conseil territorial des jeunes de Walikale craignent que cette façon de faire ne perturbe le climat de paix dans cette zone en cette période de troubles au Nord Kivu. Prince Kiangi, président du BDOA, est l'un des signataires de ces communiqués.
Le sérieux problème, c'est celui des conflits entre les exploitants miniers artisanaux et la société Alpha Mine Bissié Mining. Parce que dans le protocole qui avait été signé avec la communauté, on n'avait pas fait allusion au creuser. Lorsqu'on a procédé à l'évaluation de ce protocole d'accord qui avait été signé en avril, il a été convenu qu'on organiserait un dialogue entre les exploitants miniers artisanaux et évrants sur le site de Bissié et la société Alpha Mine. Et déjà, ces exploitants miniers artisanaux se préparaient pour ce dialogue. Mais soudain, on apprend que ce n'est plus cette logique-là dans laquelle la société évolue, mais la société est en train d'organiser des petites réunions avec les services de sécurité, les services de renseignement et les autorités locales pour organiser une mission sur le site de Bissié et procéder au déguerpissement de tous les creusés sur le site de Bissié et tous leurs dépendants, donc femmes et enfants sur le site de Bissié.
Et c'est la fin de Écho d'économie de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Radio Capi.